Ça me donne envie de rebondir sur justement cette destruction, enfin cette façon d'habiter la terre dont tu parles, Malcolm, qui est cette habitée coloniale, et peut-être que tu puisses nous dire un peu plus de ça, de ce que tu nommes habitée coloniale, et de sa responsabilité dans la crise que l'on traverse.
Donc, un des chapitres du livre déploie un peu ce concept. Et ce que j'ai voulu montrer par là, c'est enfin, plusieurs choses. Quand on pense que la colonisation, notamment la colonisation européenne, la colonisation moderne des Amériques, n'est pas uniquement un rapport de conquête et des statuts juridico-politiques de domination d'un groupe sur un autre groupe. C'est aussi l'imposition de toute une conception de ce que ça signifie d'être au monde, de ce que ça signifie d'habiter. Et d'ailleurs, c'était écrit dans les textes mêmes, dans la constitution des compagnies de Saint-Christophe, à la place. Donc, c'est la première compagnie française qui a... Enfin, ils ont d'abord essayé au Brésil au XVIe siècle, ils n'ont pas réussi, mais après ils sont venus à Saint-Christophe, où ils expliquent en fait que on va habiter ces terres. Et pour eux, à l'époque de Nambuc et compagnie, Richelieu, habiter ces terres, c'était exterminer les peuples qui y habitaient, Caraïbes, Taïno, etc., avec une vision extrêmement genrée, parce que voilà, il faut violer, les femmes, conserver, etc. C'était déforester ou défricher et planter ou alors soit extraire à travers l'extractivisme des mines, soit planter de manière avec des monocultures la plantation. Et que cet habité-là, cette façon d'habiter ces terres-là, était un habité second par rapport à l'habité à l'époque métropolitain, aujourd'hui, voilà, moi je dis hexagonal. Mais c'est-à-dire que la fonction de ces terres était d'alimenter les palais, les désirs de richesse, en fait, du marché européen. Et ça, j'appelle ça, du coup, l'habité coloniale. Et ce qui est marquant, c'est que cette façon de se penser, qu'on forge au moment de la colonisation, elle ne s'est pas arrêtée après les décolonisations ou après les abolitions de l'esclavage. Au contraire, l'impérialisme, 19e siècle, qui est Afrique, Asie, Océanie, n'a fait que étendre en fait cette habité coloniale dans le reste du monde.
Oui, je voulais peut-être profiter de cette remarque pour peut-être aller à continuer en fait peut-être autour de cette remarque. Ce que souligne Malcolm, c'est un élément extrêmement déterminant, en fait, et un outil à la fois très simple et à la fois avec beaucoup de profondeur qu'on peut déployer pour comprendre qu'en fait, les identités culturelles dans lesquelles on se trouve, là on est en France, et on pourrait le reproduire à d'autres nations coloniales, on est en France, et je pense que vous avez d'ailleurs en fait beaucoup d'exemples extrêmement concrets pendant la campagne présidentielle actuellement. On est en France et on est pris dans un récit. Et ça, c'est pas une blague, en fait. C'est un truc assez sérieux et qui est la continuité, en fait, de cet habiter le monde. Cet habiter le monde va construire un récit où on déconnecte l'ici du là-bas. Et donc, des gens vont nous raconter la France. Il y a beaucoup de candidats à l'élection présidentielle, notamment, qui, en 2022, continuent à nous raconter la France totalement déconnectée de son là-bas. Alors que si vous faites un tout petit peu un effort pour nommer peut-être les 3 ou 4 ressources dont on a absolument besoin pour vivre en France, uranium, lithium, coltan, pétrole, vous verrez qu'aucune d'entre elles ne se trouve en France. Donc ça, c'est quelque chose, on peut dire, là je vous donne des éléments, s'ils ne sont pas objectifs, puisqu'on me reproche souvent de ne pas l'être, là je commence par le plus facile. On peut tous être d'accord sur le fait que les 4-5 ressources qui nous sont parfaitement indispensables pour notre habiter le monde en tant que Français, ou en tant qu'habitant de la France, même si on n'est pas Français, ne sont pas sur le territoire lui-même. Cependant, on est inscrit dans un territoire qui tente de faire exister un ici, la France, avec ses bords de mer, ses collines vertes, ses clochers, dans lesquels on ne trouve quand même pas d'uranium, de coltan, de pétrole, de gaz. Et pourtant, vous vous rappelez que les affiches électorales, pendant très longtemps, là, ils se sont un tout petit peu calmés. Mais quand j'étais plus jeune, Giscard d'Estaing, c'était sur fond d'église et de clocher. Et ça, c'est important parce que ça, et là, je parle vraiment dans une en tant qu'auteur, écrivain et artiste, avec aussi le collectif de Living in Light Ensemble, c'est la question du récit. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'artiste? On peut se mettre au travail sur la question du récit. Parce qu'il n'y a pas que des artistes qui produisent des récits. Il n'y a pas que des écrivains, des cinéastes, tout ça. Les nations produisent des récits. La France dans laquelle on vit est un récit. Et le récit qui nous est proposé déconnecte, en fait, le présent de la France avec la question de la colonialité, comme vient dire Malcolm, ou alors, si vous voulez, la continuité du processus colonial qui continue après ce qu'on appelle, à proprement parler, les décolonisations. C'est-à-dire qu'en fait, le processus narratif reste le même. Et quel est-il ? Le vivre dans le ici est déconnecté de ses sources avec le là-bas et de ses conséquences. Ce qui veut dire que une écologie pensée, pour venir à notre sujet, depuis la France, pourrait être complètement présentée à partir de choses qu'on va faire en France. Je vais acheter des produits près de chez moi, dans une AMAP. Je vais faire des circuits courts. Je prends plus l'avion, pour citer personne. Je fais attention. Mais en fait, la problématique de base à laquelle on est confronté lorsqu'on est des habitants d'un pays qui est un empire, c'est notre capacité à nous reconnecter avec tous les territoires qui impliquent l'existence de notre pays. Et cette connaissance-là, je suis désolé, en tant que Français, on l'a trop peu. On a l'impression que là, depuis quelques décennies, on découvre l'histoire coloniale française. C'est quand même un empire qui a été sur 5 continents. Une des plus grandes propriétés maritimes du monde. En fait, ce niveau d'ignorance, il faut qu'on le questionne. Comment ça se fait qu'on ignore autant notre propre histoire et qu'on nous rabâche sans cesse durant les élections notre soi-disant histoire? Donc finalement, il y a une espèce d'obsession historique chez des candidats que vous connaissez, sauf en fait de nous parler de l'histoire concrètement, parce qu'en France, ce serait vraiment intéressant si on parle de notre histoire. Ça nous aiderait. Et donc c'est vrai qu'il me semble que la base même d'un savoir partagé, au-delà même après de position par rapport à ce savoir, que ça c'est autre chose. Une fois qu'on a un savoir partagé, chacun fait son montage, son maillage, il y a des points de vue. Mais il y a des choses qui ne sont pas des points de vue. Ne pas avoir dans son propre pays la majeure partie des ressources nécessaires pour le faire fonctionner, c'est pas un point de vue. Non, mais c'est important, en fait. Il faut vraiment qu'on juge à quel moment, après, il y a des opinions qui vont se construire. Là, c'est des faits. Et c'est vrai que, du coup, le travail des artistes, c'est d'essayer de faire un récit qui fait deux choses. D'une part, en fait, c'est d'essayer, et là, pour moi, c'est le geste décolonial, dans la théorie décoloniale du récit, c'est de dire, je ne regarde pas le spectacle qu'on veut me montrer, mais je regarde qui est en train de me montrer le spectacle. Ce que j'appelle le deuxième spectacle. Pourquoi tu veux absolument que je croie que le sujet, il est là? Pourquoi tu me dis aujourd'hui le sujet, c'est vraiment les filières? Pourquoi tu pointes tout ce sujet-là? Pour que je ne regarde pas l'autre sujet, qui est un sujet qui va impliquer d'autres choses. Pourquoi l'obsession écologique en France, c'est de savoir ce qu'on va faire en France? C'est parce qu'on n'a pas envie de réparer. On n'a pas envie de rentrer dans la question de la réparation. C'est un truc impensable pour une nation comme la France de se dire, en plus d'arrêter d'abîmer, ce qui est un bon départ, il faut en plus qu'on investisse du temps, de l'énergie, à inventer, et là Annabelle parlait de quelques exemples, il faut inventer comment on répare. Parce que nos sociétés, elles sont construites sur quelque chose qu'on ne va pas juste réparer en disant qu'on arrête de le faire. Il faut aussi activement inventer des réparations, et en plus de ça, qu'elles soient satisfaisantes pour nous, parce que sinon on ne va pas le faire. Si la réparation, c'est qu'une punition, on va jamais le faire. Donc il faut qu'on invente un truc qui, pour nos sociétés, est quand même épanouissant, émancipant. Et ça, c'est un défi d'imagination, et les artistes doivent y participer. Et enfin, pour rejoindre peut-être le point, moi je suis d'origine guadeloupéenne, et j'ai grandi en France, je pense que la dernière chose qu'on doit réparer pour nous, c'est le processus du récit colonial. Non seulement il impose un récit qui occulte les autres récits, mais il a aussi une pratique de dispersion des héritages. Ce qui fait que les Caraïbéens connaissent très peu leurs propres histoires, plus que l'État français, notamment partout où il a été, a atomisé les héritages culturels, qui fait que nous, on travaille, moi je suis Guadeloupéen, je travaille d'Haïtien. Pour des Guadeloupéens, c'est un peu incongru de travailler d'Haïtien, et ça, c'est le résultat de la colonisation. Et c'est pas un résultat qui est un résultat, c'est pas un hasard. La dispersion de la possibilité de retisser des savoirs régionaux est une vraie méthode coloniale de récit. C'est-à-dire que ça éclate. N'oubliez pas qu'il y a des frontières Schengen dans la Caraïbe. Hein. Plus que la Guadeloupe et la Martinique, c'est la France. Il y a des frontières Schengen en Amazonie, puisque la Guyane, c'est la France. Il y a des frontières Schengen dans l'océan Indien, puisque la Réunion, c'est la France. Il y a des frontières Schengen aux frontières du Japon, puisque la Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Il y a des frontières Schengen dans le Pacifique, parce que Tahiti, c'est la France. Donc on importe des séparations du monde. On produit de la séparation dans des régions dans lesquelles des gens... L'une des pires, je pense, c'est pour les Comores, parce que là, on a un archipel qui est séparé entre des îles qui sont Schengen et des autres qui sont je sais pas quoi. Et donc cette violence-là de séparation, c'est pas un hasard. On produit de la séparation dans le monde parce que la capacité à se rassembler dans des parties du monde qui ne sont pas invitées, ben plus on se rassemble, plus on se parle, plus on se dit mais on aurait dû se parler avant quand même quoi. Et on se rend compte qu'on aurait dû se parler avant. Et ça, je pense qu'on doit faire un travail pour se dire ce qui a été séparé. La première réparation pour moi, c'est de renouer ce qui a été séparé, donc de se reparler, voilà, de reconnaître nos afro-descendances, de reconnaître le lien avec les Taïnos, de reconnaître le lien, plutôt que se laisser éclater en disant moi je suis français, toi t'es haïtien, toi t'es... Et du coup, entre nous, il y a un visa pour entrer en Europe, quoi.
Ça me donne envie de poser la question de qu'est-ce qui se passe justement quand ce là-bas dont tu parlais vient faire intrusion dans le ici. Et du coup, de parler aussi de cette intrusion d'Haïti, peut-être, dont tu parles aussi, Malcolm, dans ton livre.
Alors, je vais dire deux mots, mais après, je vais laisser la parole aux confrères et consœurs d'Haïti. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus de colonisation dont voilà, j'ai donné quelques éléments, cette continuité dont parle Olivier aussi, il faut voir ce que ça fait à l'autre. Du coup, à l'autre, celles et ceux qui sont colonisés et ce qu'il en ressort en termes de production du savoir, en termes d'ontologie, c'est-à-dire de manière d'être au monde. Qu'en fait, on a inventé une catégorie de l'humain qui suppose finalement que les autres ne soient pas humains, que ceux qui n'ont pas les mêmes dieux, les mêmes cultures, la même couleur de peau, la même localisation géographique, et finalement de suppose que l'autre non seulement n'a pas de langue, alors faut voir le sort qui est réservé aux créoles, on pourra peut-être en parler en Martinique, que l'autre n'a pas de savoir. Que l'autre n'est pas. Et donc on a des grands auteurs qui ont bien travaillé ça, comme France Fanon, Aimé Césaire, Marie Scondé, bien d'autres bien sûr. Et du coup, dans le cadre de ce livre, de cette réflexion sur l'écologie, donc vous aurez compris que, à mon sens, les cercles où on travaille, les politiques, les pratiques et l'écologie dans le Nord global sont porteurs de cette colonialité. Et je me suis intéressé à la manière dont, en fait, ceux qui ont été silenciés, ceux qui ont été mis au silence, tout d'un coup prennent place et se mettent à parler. Je m'inspire beaucoup d'une théoricienne caribéenne qui s'appelle Sylvia Winter, d'origine jamaïcaine, qui prend le concept d'humain. Et elle définit, en tout cas, le concept d'humain. Enfin, elle ne donne pas un contenu à ce que ça veut dire être humain, mais elle le prend comme un territoire occupé. Et que cette catégorie de l'humain, ou plutôt de l'homme, enfin selon man, voilà, en anglais, est une catégorie occupée. C'est-à-dire qu'il y a eu un groupe de personnes, principalement ceux qui sont censés produire le savoir, donc des hommes blancs de classe aisée dans l'histoire, et qui ont donné un contenu à ce que ça voulait dire être humain. Et l'une des propositions qu'elle fait, c'est de se réapproprier de cette catégorie-là et à certains moments de proposer d'autres façons de faire, de comprendre l'humanité. Le geste que je propose dans ce livre est analogue par rapport à la catégorie d'écologie. Que, en fait, l'un des résultats dommageables, c'est que du fait qu'il y a un groupe, une catégorie de personnes qui se sont octroyées le droit de décider de ce que ça voulait dire être écologiste ou pas, certaines personnes ont dit « bon, en fait, l'écologie, c'est un truc de blanc, ça ne me concerne pas, etc. etc. » Ce qu'on peut comprendre. Mais il y a des moments où finalement va y avoir des intrusions de ceux qui ont été, celles et ceux qui ont été mis de côté et qui vont à leur tour redéfinir ce que ça veut dire être au monde, ce que ça veut dire faire monde, ce que ça veut dire habiter la terre. Et donc dans le livre, je suis dans une discussion constante avec cette tradition-là et je montre en fait les autres façons de penser l'écologie. Et ça, c'est peut-être la pire chose, c'est que il y a une telle inertie dans cette conception coloniale du monde qu'on a l'impression que ça ne peut pas être autrement. Et ce que j'appelle, enfin, sans pouvoir entrer dans trop de détails, ce que j'appelle l'intrusion d'Haïti, c'est précisément le moment où cette ontologie occidentale va être ébranlée et on va laisser place à autre chose, place à d'autres manières qui ne font pas fi de cette histoire coloniale. Entre autres. Et donc du coup montre ce que ça veut dire, montre les autres potentialités de résistance et ces manières encore plus belles, on va dire, de faire monde. Je m'arrête là et...
L'intrusion à Haïti. Et ce qui est marrant et formidable dans le livre, c'est que Haïti s'écrit... A-Y-I-T-I, c'est en créole, ça c'est le nom que les Taïnos, les premiers habitants de l'île, a donné avec le pays, Haïti, au Kiskeya Oboyo, qui signifie terre montagneuse, et puis et là, dans la colonisation, toujours il faut renommer, il faut nommer. On a changé le nom de l'île, on a appelé ça Saint-Domingue. Mais c'est fou. Et là, pour parler de l'intrusion Haïti, comment Haïti s'est fait, s'est faufilé, et puis apparu comme un miracle. Et on ne peut pas voir Haïti sans voir la culture haïtienne. On ne peut pas parler de cette île-là sans voir et le vaudou, on ne peut pas. Parce que Haïti, étant que la mère de la liberté, comme tu as décrit dans ton livre Haïti comme mère, comme la terre-mère, et là pour parler de Haïti, ben, le vaudou, ben, qui est un schéma triangulaire parce que c'est un tout, c'est un mélange. Pour voir l'être haïtien, il faut voir et les pluridimensionnels, il faut voir et Haïti sur langue africaine, sur langue taïno et sur langue occidentale parce que c'est l'ensemble des schémas, c'est ces trois continents, c'est ces trois et peuples, ces trois cultures qui donnent le vaudou haïtien qui donne l'être haïtien. Parce que le vaudou haïtien étant que l'âme du peuple haïtien étant que l'haïtianité, et ça représente tellement beaucoup, parce que pouvoir Haïti étant que le berceau de la révolution dans la pour la colonisation, et puis Haïti, ben, un tout petit peuple, esclave, à renverser l'ordre mondial. Parce que l'ordre mondial, comme et tout à l'heure tu venais de dire que il faut rendre, tout dépendamment de ta couleur, tes yeux, ta race, on te dit que on te catégorise pour dire t'es humain ou t'es pas humain ou t'es moins humain par rapport à l'autre. Et Haïti à renverser l'ordre mondial pour dire, ben non, ce n'est pas parce qu'on est esclave, mais on est des humains. Et pour faire référence avec Anténor Firmin, qui a parlé de l'égalité des races humaines, En contredit avec Gobineau, qui a dit que les hommes, les blancs, et puis tout, et pour arriver au noir, pour dire qu'ils sont des bêtes. Mais nous, on a renversé l'ordre mondial pour dire que on est des humains et on peut combattre. Et quand la France clignotait la liberté pour tous, on a dit, mais non. Quand on parle de la liberté pour tous, il faut voir, il y a les esclaves. Est-ce que les esclaves ne sont pas des humains? Et Haïti a renversé l'ordre. Et c'est ça. Et là, voir la culture haïtienne, le vaudou, comme outil, et on a fagoté le créole, qui est un mélange entre la langue occidentale, entre la langue des Taïno, entre la langue africaine, et puis pour donner le créole comme outil de communication. Et c'est à partir du vaudou et le créole qu'on a renversé l'ordre mondial. En 1791, dans le congrès du Bois Caïman, on a dit, on est des humains, mais il faut combattre pour la liberté. Et 1804, Haïti est devenue la première république noire du monde indépendant. Et c'est ça, jusqu'à présent, qu'on nous fait payer cette liberté. Parce qu'on ne doit pas être libre. On devrait être dans l'esclavage. Et l'idée décoloniale, c'est pour dire que, mais nous, étant humains, on doit être libre. Et si on a combattu pour cette liberté, il faut vraiment, vraiment qu'on nous respecte pour ça. Et il y a encore, là pour parler Haïti, comme intrusion, comme un miracle qui s'est fait apparu. Mais parce que là encore, dire que on est des responsables de la pollution, on est des responsables du réchauffement climatique, parce que on abat les arbres, parce que on détruit la terre. Mais non. Mais il faut voir les conséquences de la colonisation, parce que c'est à partir de la colonisation on abat les forêts pour planter. Et après la colonisation, il faut voir les conséquences de l'occupation, parce qu'avec les grands groupes, on abat les restes des forêts pour implanter les grandes industries. Et encore, il faut voir les FMI, qui dit il faut privatiser tout, il faut faire tout. Et puis c'est là, parce que là encore, le pays est appauvri. Et on nous a dit qu'on est des responsables. Mais non, pas ça. Mais tout simplement, c'est la responsabilité à ces occupants-là. C'est la responsabilité à ces gens-là, les grands groupes industriels, les grands pays qui nous occupent et qui extraient toutes nos richesses et puis nous laguent les bras ballants et puis pour dire que c'est à nous de les réparer.